Spotify 10,99 par mois, Patreon 5$, abonnement au câble 55$, journal 24$. Boulevard 102.1. La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0$. Gratis. Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.1. La vraie solution à l'inflation.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, édition du 27 novembre 2024, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Il neige à Québec, on était très heureux de cette petite couverture de neige-là. Souhaitons qu'elle restera, et ce, jusqu'à Noël. Il n'y a rien de mieux qu'un Noël blanc. Je sais pas comment ça se passe du côté de Montréal, à savoir s'ils ont eu leur neige eux aussi, mais on va y aller ce soir, puisque mon invité de ce soir, c'est Sophie Durocher qui vient nous parler de son livre « Où sont les femmes? », un livre hyper intéressant que j'ai eu le temps de débuter, je vous dirais, la semaine dernière. Puis il me reste encore, si je ne me trompe pas, le dernier chapitre à lire. Et du début jusqu'à où je suis rendu, j'ai été agréablement surpris de ce livre-là, qui au départ ne m'inspirait pas. Et j'ai tellement appris de trucs que je me suis dit « OK, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce livre-là ». Sophie Durocher, salut!
Bonjour, écoute, j'adore ton introduction parce que je pense que tu es mon public cible, c'est-à-dire quelqu'un qui normalement peut-être ne serait pas intéressé par ces questions-là ou que peut-être ça ne l'intrigue pas tant que ça,
ouais. Mais
que je vais aller chercher chapitre après chapitre, document après document, information après information, puis surtout réflexion après réflexion. Donc, je suis très contente d'être allée à ta conquête.
Mais il y a beaucoup de recherches là-dedans, dans ce livre-là. C'est ce qui m'a paru dès le départ. Là, tu parles des féministes d'antan, tu parles des suffragettes, tu parles de la dame qui a réussi à faire marcher les astronautes sur la Lune. Ça a dû prendre énormément de temps, faire ce livre-là.
Écoute, ça fait plus d'un an et demi que j'ai travaillé là-dessus. Et ce que je faisais, parce que bon, je travaille à temps plein, j'écris dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Évidemment, je suis animatrice à Cube. Et en plus, j'ai un mari et un enfant et deux belles filles. Donc, pour être sûre d'avoir suffisamment de temps et surtout beaucoup de concentration, je suis allée à plusieurs reprises dans une abbaye à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça s'appelle l'abbaye Sainte-Marie. Donc, j'étais avec des sœurs cloîtrées et j'avais ma petite cellule. Alors, une cellule dans une abbaye, c'est vraiment élémentaire. Là, tu as un lit, un bureau, une chaise, c'est tout.
Et c'est un petit lit simple, hein, si je ne me trompe pas.
Petit lit simple et pas très confortable.
J'étais à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Labre, puis c'est exactement la même affaire. C'est tout petit, là. On est dans un cocon.
C'est vraiment une cellule, donc tu n'es pas en prison, ou en tout cas, c'est une prison volontaire.
Ouais.
Mais ce qui est formidable, c'est que ça te permet de t'isoler. Parce que tu n'as pas ton téléphone qui sonne, tu n'as pas la télé, tu n'as pas le frigidaire, tu vas prendre trois fois par jour tes repas avec les autres personnes qui sont à l'abbaye, mais c'est dans le silence, tu es tranquille, tu peux te concentrer, tu fais juste travailler. Et moi, je faisais des week-ends ou des fois trois jours où je commençais à travailler à 7h le matin jusqu'à minuit le soir sans arrêt. Trois jours de suite. Donc, ça m'a permis d'abattre énormément de travail.
OK. Je trouve ça franchement intéressant. Tu parles de Denise Bombardier dans ton livre. Moi, c'est la première féministe que j'ai connue à la télé. Là. Denise Bombardier est une grande dame du Québec, mais une grande dame de la télé aussi. Elle était tellement impressionnante par son franc-parler, par le fait qu'elle n'avait peur d'absolument rien. Quelques personnes plus tard ont su qu'elle avait créé comme un drame en France quand elle avait confronté un pédophile. Moi, je n'avais entendu parler bien avant, mais quelle femme qu'on avait au Québec, là, en Denise Bombardier. Puis est-ce que c'était une dame que tu admirais?
Oui, c'est quelqu'un non seulement que j'admirais, mais c'était une bonne amie à moi.
Ah oui.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui dédier le livre. Je la cite à plusieurs reprises dans le livre. Ça ne veut pas dire que Denise et moi, on était d'accord sur tout. Par exemple, Denise avait énormément de réticence face au mariage gay. Moi, le mariage gay, ça ne me fait pas un pli sur la bédaine.
Oui.
contraire, j'ai aucun souci avec ça. Elle avait ses prérogatives, mais tu as tout à fait raison. C'était quelqu'un qui était courageux, qui avait peur de, non seulement elle avait peur de rien, mais elle avait peur de personne. Et c'est surtout qu'elle défendait un féminisme très solide. Elle défendait un féminisme qui n'était pas du tout contre les hommes, qui était vraiment purement égalitaire. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que le féminisme d'aujourd'hui se rappelle d'où il vient et pourquoi il existe, qu'il se rappelle tous les combats qui ont été menés par les femmes pour être visibles et que les femmes occupent leur place dans l'espace public parce qu'en ce moment, les femmes sont en train de se faire gruger leur espace, leur présence même dans l'espace public, ne serait-ce que parce que de plus en plus dans les gouvernements, dans les publications, dans les organismes, on va dire une personne enceinte au lieu de dire une femme enceinte, on va dire une personne avec un vagin, une personne avec un utérus, une personne capable de grossesse. Même le mot femme est en train de disparaître et ça m'inquiète, comme tu le sais, parce que tu as lu mon livre.
Les jeunes femmes qui arrivent dans les médias, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui se disent féministes, j'ai l'impression qu'à certains endroits, ils ont une tendance à errer parce que on a l'impression que ces femmes-là détestent les hommes, là. Et on dirait que plus ces femmes-là détestent les hommes, plus ça attire comme une certaine clientèle, c'est-à-dire, ah oui, elle est féministe, elle est féministe, alors que les suffragettes, c'était pas basé sur la haine de l'homme. Les femmes voulaient leurs droits, des droits qui leur revenaient. Ces femmes-là se sont battues. J'imagine que tu as lu le livre, puis probablement le film. Moi, je l'ai appris par le film par la suite, mais tu sais, quel combat ces femmes-là ont vécu pour
Incroyable.
réussir à avoir les droits, les mêmes droits que les hommes. Puis aujourd'hui, le féminisme de 2024, j'ai l'impression qu'il est complètement ailleurs. T'sais. Il n'est pas à la bonne place.
Mais tu as tellement raison, et c'est vrai que j'encourage tout le monde à voir le film qui s'appelle justement Suffragette, parce que c'est absolument troublant de voir ces femmes-là qui ont tout perdu. Hein. Le personnage principal, elle perd la garde de son enfant, elle perd son mari, elle perd son travail, elle se retrouve en prison parce qu'elle a demandé à pouvoir voter. C'est quand même assez incroyable. Donc c'est important de se rappeler le chemin qu'on a parcouru et le chemin que le courage des femmes qui nous ont précédées. Quand tu dis que le féminisme d'aujourd'hui, certains féminismes d'aujourd'hui se fait contre les hommes au lieu de se faire avec les hommes, écoute, il y a quelques années de ça, je me souviens plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais il y a une féministe très connue au Québec, Martine Delvaux, à l'occasion, puis elle publie plein d'essais, dont le Boys Club et tout ça. C'est la fête des pères. Et elle écrit sur Twitter, ouais, c'est bien beau, là, votre célébration des gars, puis des pères, et du... Mais elle dit, nous, on aimerait ça, moins se faire agresser, puis moins se faire violer à cause du patriarcat. C'est parce que c'est la fête des pères. On peut-tu juste avoir une journée par année où on dit, hey, mon père, c'est un héros, mon père, c'est un bon gars, mon père. Elle choisit cette journée-là pour dire... Ben, votre patriarcat fait en sorte qu'on se fait violer. On sait qu'il y a des femmes qui se font violer, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la fête des pères? C'est quoi? C'est une façon d'antagoniser, comme si on voyait constamment l'homme comme un ennemi, comme si tous les hommes, tous les pères étaient des prédateurs potentiels, mais c'est tellement pas le féminisme auquel moi je m'identifie. Je trouvais ça épouvantable qu'elle écrive ça.
Des femmes dans la vingtaine qui disent ben, je préférerais être face à face avec un ours dans le bois que devant un homme. Des dames qui se présentent sur les réseaux sociaux en disant ben moi j'ai peur de l'homme blanc, donc j'aimerais mieux être en présence d'un drag queen,
J'ai vu ça.
Tu sais, je veux dire, le danger du féminisme de 2024, Sophie Durocher, c'est vous allez perdre, ces gens-là vont perdre des alliés. Moi, je me suis toujours considéré comme un allié des femmes dans leur combat pour être à l'égalité des hommes. Puis je me suis souvent posé des questions avec mes employeurs, savoir quoi, ouais, mais pourquoi les filles sont traitées différemment? Puis ici, ben, pas à la station où je travaille, mais je me suis posé des questions aussi parce que j'avais une collègue qui faisait à peu près les mêmes tâches que les autres, qui gagnait pas le même salaire. Je posais la question à mon patron, c'est parce que c'est une fille qui t'appelle moins, que t'appelles moins cher. Moi, je me suis toujours considéré comme un allié de ces féministes-là. On va les appeler les anciennes, là. Mais les
Oui.
nouvelles, j'ai une tendance à décrocher. À partir du moment où tu me considères a priori comme un futur agresseur ou un possible agresseur, moi, tu me perds, là. Je quitte le building.
Ben, tu as tout à fait raison et c'est, je sais très bien à qui tu fais référence. Puis je veux pas la nommer, cette jeune femme-là, mais elle a en effet fait une déclaration très surprenante où elle disait, quand je marche dans la rue puis que je vois quelqu'un qui a l'air d'un homme hétéro, j'en ai peur. Alors que si je vois quelqu'un qui a l'air gay ou que je vois une femme ou que je vois des drag queens ou peu importe, ben, là, je me sens à l'aise puis j'ai tendance à aller vers eux. Mais tu te rends compte le message que tu envoies? Puis c'est vrai qu'elle parle de comment elle se sent. Mais comment on en est arrivé là? Quelle tristesse que juste sur la base de même de l'orientation sexuelle présumée de quelqu'un, tu te dis, ben, cette personne-là va me faire du tort alors que telle autre personne ne m'en fera pas. Comment peut-on, d'abord, c'est des preuves, faire preuve de stéréotypes et de préjugés, puis il me semblait que les préjugés et les stéréotypes, c'était pas bien. Mais ça a l'air que quand tu es féministe puis que tu as 25 ans, c'est correct d'avoir des stéréotypes puis des préjugés. Du moment que les préjugés, tu les as sur les hommes blancs de 50 ans et plus, hétéros, ça, c'est correct. C'est
Est-ce qu'on a l'impression, est-ce que ces gens-là ont l'impression qu'ils détiennent la vertu? Donc, en détenant la vertu, en se battant pour les bonnes causes, selon eux, ils peuvent dire à peu près n'importe quoi, puis ça va passer?
Ben, totalement. Puis c'est aussi qu'on vit en 2024 une époque où on a hiérarchisé les droits. Alors, par exemple, on dit, OK, bon, c'est correct de défendre les droits des femmes, là, mais les droits des personnes transgenres, par exemple, sont plus importants que les droits des femmes. Alors, par exemple, dans le domaine des sports, ben oui, c'est correct, là, les femmes, on est présentes, on a nos sections sportives aux Olympiques, il y a du sport féminin, mais tu sais, une pauvre personne transgenre qui veut faire des sports, ben oui, venez-vous-en dans la section féminine, c'est pas grave. C'est pas grave, nous, on va vous faire de la place. Puis si c'est un homme biologique qui s'habille en femme, qui gagne des médailles, ben on va applaudir. Ben, c'est parce que non, là, vous êtes pas, vous vous rendez pas compte qu'en étant trop gentil, en voulant tellement signaler votre vertu, elles ont tellement peur de se faire traiter de transphobe qu'elles vont dire à des athlètes biologiquement mâles, ben venez-vous-en dans les compétitions féminines, il n'y a aucun problème. Allô, réveillez-vous les filles, là.
Oui. Ah, puis des fois, on n'en revient pas de voir ça passer dans les médias. Puis nous, on en parle régulièrement à la Radio de Québec. Je sais pas. Bon, à Montréal, là, maintenant, le 99.5 est là. Fait que j'imagine que vous parlez de ces dossiers-là aussi. Mais c'est comme s'il y avait une complicité dans tous les médias que c'est normal de dire qu'un homme peut être enceinte maintenant, alors que ben c'est comme un peu nier la biologie. T'sais, si on nous dit qu'il faut se fier à la science, ben la science dit qu'il y a deux sexes. Un avec un organe reproducteur qui peut faire en sorte qu'elle va porter le bébé, puis l'autre ben, qui va semer la semence dans cette dame-là. Mais de dire, ah, un homme peut être enceinte aujourd'hui, c'est un grand mensonge, puis on dirait que c'est un mensonge qui est répété, qui devient pratiquement une vérité.
Je vais te donner un très bon exemple de ça et tu as entièrement raison. Récemment, j'ai reçu à mon émission à la radio Simon Coutu, le réalisateur du fameux film Alpha sur les hommes alpha.
Oui.
Et dans le documentaire, à un moment donné, il y a un des mâles alpha qui est interviewé qui dit que lui, il n'est pas d'accord qu'on enseigne la théorie du genre dans les écoles, qu'on enseigne que tu peux être une fille le mardi puis un gars le mercredi. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, moi, je parle au réalisateur du film, Simon Coutu, puis je dis, écoute, Simon, moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que ça n'a pas de sens de dire à des enfants que le sexe est pas binaire, puis que oui, en effet, tu peux changer de genre n'importe comment. Et lui, il dit, ben non. Il dit, non, non. Il dit, moi, je pense, en effet. Je lui dis, tu trouves ça normal qu'il y ait des gens qui aillent dans les écoles au Québec et qui disent, un homme peut avoir un vagin et une femme peut avoir un pénis? Il me dit, oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai dit, attends, ça te dérange pas qu'on dise ça à ton enfant? Qu'un homme peut avoir une vulve et qu'une femme peut avoir un pénis. Il dit non, non, moi, ça ne me dérange pas. Puis là, je me disais, attends deux secondes, tu es en train de faire un documentaire en disant le discours de ces gars-là est un discours dangereux.
Ouais.
Tu n'es pas prêt à dénoncer des gens qui, d'une autre façon, ont un discours complètement farfelu. C'est comme si quelqu'un disait la Terre est plate. puis qu'on va aller l'enseigner dans les écoles, puis toi, tu dis, oh non, j'ai pas de problème avec ça. Moi, qu'on dise à mes enfants que la Terre est plate, voyons!
J'ai l'impression ils vont avoir moins de problèmes s'ils embarquent dans le discours de leurs amis que s'ils disent, écoutez les amis, là, ce qu'on est en train de faire là, c'est un grand mensonge. T'sais, les femmes peuvent porter des enfants, puis les hommes ne peuvent pas porter des enfants. Cela dit, je veux revenir un peu sur Sophie Durocher. Tu es partie de la France à 12 ans. Oui. Ta mère qui est venue s'établir au Québec, ton père qui travaille dans les ambassades de mémoire. Là,
Oui, mon père était diplomate et moi, je suis née quand mon père était en poste à Bordeaux, dans le sud de la France.
Donc, tu es encore en contact avec le peuple français. Quand je travaillais avec Richard oui. à Québec pour la station où on travaillait ensemble, il me parlait régulièrement de l'Europe. Y a-t-il une différence entre le féminisme français puis le féminisme québécois?
C'est-à-dire qu'il y a d'énormes différences aussi parce que la société française est très différente. La société française est beaucoup plus macho, beaucoup plus sexiste que la société québécoise. Et c'est pour ça, moi, si tu compares un homme français avec un homme québécois, l'homme québécois, là, il est beaucoup plus égalitaire. Il va faire beaucoup plus de tâches, de partage des tâches à la maison. Le congé parental au Québec, là, la femme peut le prendre, le gars peut le prendre. Puis la quantité de gars qui prennent le congé parental et qui passent du temps avec leurs enfants, moi, ça m'émeut à chaque fois que je parle de ça parce que je trouve que l'homme... Moi, j'adore les hommes québécois. Je trouve qu'on ne vante pas assez les mérites de l'homme québécois. Je trouve qu'on le représente trop souvent comme un crétin dans les publicités, qu'on lui tape trop souvent sur la tête en l'accusant de tous les maux et de tous les torts. Et donc, je comprends pas en conséquence pourquoi il y a un féminisme québécois qui est si hargneux envers les hommes, alors que si on compare avec bien d'autres sociétés, l'homme québécois est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus respectueux. Donc, si on compare avec la France, le féminisme français ne peut pas être comme le féminisme québécois parce que les hommes qu'elles ont en face d'elles ne ressemblent pas du tout aux hommes québécois. Par contre, toute cette terminologie-là, là, de parler de personnes avec un utérus, puis des folies pareilles, mais ça existe aussi en France. Je veux dire, il y a aussi des féministes crinquées en France qui n'hésitent pas à utiliser ce genre d'expression-là. Donc, tu sais, des woke, il y en a aussi en France. Là. Moi, je lis beaucoup de livres qui se publient en France sur ce phénomène-là du wokisme. Des fois, je m'arrache les cheveux dans la tête en disant « aïe, aïe, c'est vraiment, ça va loin, là!
Ouais. » Il y a quelque chose que la France a plus que le Québec, par contre, c'est les débats, que ce soit à la télé ou encore à la radio. On reçoit souvent des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Puis des fois, c'est des gens qui ont à peu près les mêmes études, c'est les experts qui sont à peu près dans le même domaine, mais ils ne sont pas du tout d'accord. Et moi, de les entendre débattre, Sophie, j'adore ça. Même si des fois, le ton monte. Tandis qu'au Québec, on n'est pas très ouvert à ce type de débat-là. On aime bien cibler une personne qui est peut-être problématique. Puis après ça, on l'entoure de gens qui ne pensent pas comme cette personne-là. Puis on va y faire un dîner de con le dimanche soir.
Ben, tu vois, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que, justement, revenons à notre affaire de mâle alpha. C'est quand même très particulier ce qui s'est passé parce que l'équipe de Tout le monde en parle avait invité le réalisateur et deux des gars dans le documentaire. Ils ont quand même, les gens de Tout le monde en parle, désinvité Joël parce qu'il y a eu une pétition partie par une femme qui a été signée par 27 000 ou 28 000 personnes. Donc, on a une émission qui est animée par un gars qui recevait trois gars et qui s'est fait dire par une femme, tel gars, t'as pas le droit de l'inviter. Ça dit quelque chose quand même sur le pouvoir des femmes dans la société québécoise, là. Ouais. Elles ont réussi à dicter à Guillaume Lepage qui il avait le droit ou qui il devrait inviter ou pas inviter. Alors après, moi, je pense pas que c'est un cas de censure nécessairement. Mais c'est un cas, en tout cas, où on a mis le genou à terre en disant la force du vent est tellement forte que on va se plier à vos exigences. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un vrai débat et qu'en effet, il y ait Julien Bournival, qui est Joël, qui est le réalisateur du film Simon Coutu, et que ces gens-là débattent avec Véronique Loutier puis toute la gang. C'est pas un débat qu'on a eu ce soir-là, malheureusement. Je trouve que ça a été beaucoup de tapage sur le même clou.
Tu sais, moi, Sophie, j'ai écouté le Lucide Podcast pour me faire une tête là-dessus à savoir si c'était vraiment toxique. Là. Puis, tu sais, effectivement, les gars ont des propos qui n'ont pas de maudit bon sens. Est-ce qu'il y a une partie de spectacle là-dedans? Très sincèrement, je pense que oui, parce que s'ils étaient très pesés dans leurs pensées, qui faisaient attention à la façon dont ils parlaient, probablement que le podcast ne fonctionnerait pas autant qu'il fonctionne. Mais il y a une chose, par exemple, tu sais, j'aurais aimé les voir, à Tout le monde en parle, entouré de gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, puis qu'il y ait un débat. Puis au gros pire, le résultat aurait été le même, c'est que les niaiseries qu'ils disent dans le Lucide Podcast, on les aurait entendues à Tout le monde en parle, puis on aurait pu dire, ben finalement, moi, le Lucide Podcast, je trouve ça effectivement toxique, mais on se serait fait une idée. Là, tout le monde en parle, le plié, Sophie. La prochaine fois, la prochaine étape, ça va être quoi? C'est quand Sophie Durocher va se présenter, il y a des gens qui vont être contre ton discours, puis qui vont faire une pétition, puis après ça, Guillaume Lepage va dire, ben, on a cancellé Sophie, il y a 10 000 personnes qui ne voulaient pas l'entendre parler des hommes à télé.
Voilà, mais je tiens à préciser que Guillaume m'a invité à son émission et je suis déjà allée à son émission, mais il m'a invité pour le livre et le problème, c'est qu'au moment où il m'a invité, j'avais un problème de santé, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'avais un problème de santé qui a fait que je n'ai pas pu y aller et après, quand j'ai pris du mieux, ben là, ils trouvaient que j'étais allée à trop d'émissions de télé déjà, puis eux, ils demandent toujours la primeur. Mais je tiens à dire que Guy a été super correct avec moi. Il m'a invité à son émission pour parler du livre, c'est juste que ça n'a pas pu se faire. Mais je veux revenir sur quelque chose, c'est que au printemps de cette année, on commençait à entendre parler du Lucide Podcast, et moi, j'avais reçu à mon émission Joël et Olivier. Les deux animateurs, et je les avais confrontés, mais je l'avais fait avec humour, mais je leur avais dit, les gars, je m'arrache les cheveux de ce que vous dites, ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser, mais je les avais laissés parler.
Exact.
J'avais écouté ce qu'ils avaient à dire, et j'avais répondu avec des arguments. Le lendemain de Tout le monde en parle, où il y avait seulement Julien Bournival, le lendemain, j'ai reçu Joël, le gars qui avait été des invités. Puis sais-tu quoi? Je l'ai invité avec sa blonde. Parce qu'on dit à propos de ces gars-là, « Oh, vous voulez que les femmes fassent ci, vous voulez que les femmes fassent ça, vous voulez que les femmes ferment leur gueule? » Ben, et résultat, on ne parle pas à leurs femmes. Mais moi, je voulais parler à leurs femmes, donc j'ai invité Joël et sa blonde. Et j'ai posé des questions à sa blonde, puis j'ai écouté ce qu'elle avait à dire. Ben voilà, moi je considère que j'ai fait une sacrée bonne job.
Oui, ben en partant, en les laissant s'exprimer, puis en contrebalançant, je pense qu'on a contribué peut-être un peu plus, quand je dis « on », je ne m'inclus pas là-dedans, là, mais à Tout le monde en parle, on a contribué peut-être un peu plus à la promotion du Lucide Podcast en n'invitant pas les gars, en les cancellant, parce que là, il y en a qui se sont dit « hey, je vais me faire mon idée moi-même », puis ils vont aller l'écouter, le Lucide Podcast, tandis que si on les avait vus à Tout le monde en parle, on aurait dit « ok, c'est pas pour moi », fait que j'ai pas besoin d'aller voir qui sont ces gars-là. Maintenant, on me montrait leur discours. Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Dans mon cas, à moi, ça m'intéressait pas nécessairement.
J'irai un petit peu plus loin, juste 2 secondes, si tu permets.
Oui.
Je pense qu'on a contribué aussi d'une certaine façon à radicaliser un discours. Si tu as des gens qui disent « moi, je vais avoir des gros bras, puis je vais parler fort », parce que j'ai l'impression que je ne suis pas entendue dans la société, parce que j'ai l'impression qu'on ne me laisse pas ma place, et que la réaction de la société quand tu ouvres la bouche, c'est de te faire dire « ferme ta gueule », ben, tu vas encore plus avoir ce sentiment que ta parole n'est pas valide, que la société ne veut pas t'entendre, que tu comprends? Moi, j'ai l'impression que ça va avoir tout cet événement-là contribuer à radicaliser justement certaines personnes qui se sentaient exclues, qui en voulaient aux féministes, qui en voulaient au monde entier et qui, et au lieu de dire, ben, est-ce qu'on peut écouter ce que tu as à dire? On va pouvoir en discuter, on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir apporter des arguments à la place. Ben, je trouve que ça a fait pouet-pouet à la fin. Bon.
Dans ton livre, tu as un segment, un paragraphe, du moins, pas un paragraphe, mais un segment, tiens, qui parle des femmes qui ont des hijabs, des abayas, des niqabs. Tu mentionnes que ces gens-là contribuent en Occident à la disparition des femmes dans l'espace public. Est-ce que, en les faisant venir chez nous, est-ce qu'on est clair et net avec ces familles-là qui viennent s'établir ici pour un monde meilleur? Est-ce qu'on leur explique au départ que ici, c'est l'égalité homme-femme? Est-ce qu'on prend la femme à part pour lui expliquer que si elle veut retirer les vêtements qui cachent son visage ou qui cachent totalement son corps, elle peut le faire?
La réponse est non. Et non seulement ça, mais quand ces femmes arrivent ici au Québec, elles s'en vont, mettons, à l'hôtel de ville de Montréal, et elles sont accueillies à l'hôtel de ville de Montréal par une affiche qui dit « Bienvenue à l'hôtel de ville de Montréal ». Et il y a une affiche avec deux gars et une femme voilée. Donc, c'est quoi le message qu'on leur envoie? Bien, au Québec, on banalise le voile. Au Québec, on n'a aucun problème. On minimise le côté discriminatoire et oppressif du voile.
Ouais.
Même quand ces femmes arrivent au Québec, la Société canadienne du cancer fait des publicités sur Internet pour dire le cancer, ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Mm-hmm. Ils mettent la photo d'un papa avec deux petites filles voilées, des petites filles voilées. Et ça, c'est la Société canadienne du cancer. Donc, à plein d'occasions, la Société canadienne leur envoie le message « Hey, vous voulez porter le voile? On trouve ça formidable ici, le voile. » Ça, c'est sans compter toutes les compagnies privées qui font des publicités de shampoing ou qui font des publicités de maquillage, qui, pour se montrer inclusive, vont toujours prendre une image de femme voilée au lieu de prendre une image d'une femme noire, d'une femme asiatique, d'une femme handicapée. Leur référence, ça va toujours être la femme voilée. Et en faisant ça, ils banalisent le fait que le voile, ça cache la femme. Le voile, qu'est-ce que ça dit? Tu es un objet sexuel et tu dois te soustraire au regard des hommes. Et la seule façon de te soustraire au regard des hommes, c'est pas que les hommes arrêtent de te regarder en ayant envie de te sauter dessus. Le fardeau de la preuve est sur tes épaules à toi, et toi, tu dois te cacher. C'est ça que ça dit, le voile. Mais je sais pas s'il y en a beaucoup à Québec, mais à Montréal, de plus en plus, il y a des femmes qui portent le niqab. Ça veut dire que ça, là, ton visage est complètement caché par un bout de tissu. La seule chose qu'on voit, c'est tes yeux. Et le week-end dernier, tu sais, il y a un nouveau centre d'achat qui a ouvert à Montréal, le Royal Mount. Et je rentre dans un magasin, un Zara, pour ne pas le nommer. Il y a un jeune homme, là, il doit avoir 17 ans. Et il est avec sa blonde. Et sa blonde porte le niqab. On voit juste ses yeux. Puis elle a une espèce de tunique qui cache son corps complètement, qui va jusqu'en bas. Et c'est des jeunes, je me dis... Comment, c'est quoi, tu penses que tu es tellement dangereuse que tu dois cacher ton visage? Puis le gars, pendant ce temps-là, il magasinait pour des T-shirts.
Non, ben pour nous, c'est un non-sens, mais le lobby est tellement fort. Puis c'est ce que je me posais comme question. T'sais, est-ce qu'on leur explique à ces familles-là, vous fuyez un pays parce que vous trouvez que c'est épouvantable, ce pays-là. Donc ici, vous pouvez vivre en toute liberté. Puis si jamais vous voulez retirer vos voiles, c'est possible de le faire. Visiblement, tu es du même avis que moi. Ils ne semblent pas leur expliquer ça pendant tout. Puis au contraire, des fois, ils renforcent le signal comme quoi ben, votre visage voilé, on l'accepte, puis merci de le faire. Puis en plus, on peut vous mettre sur des publicités. Le lobby est fort tellement que ça se ramasse dans nos écoles, où il y a des enseignants qui enseignent l'islam à nos enfants puis qui considèrent qu'une jeune fille ne peut pas faire de soccer. Oui, c'est au Québec quand même. Là, ils se sont fait prendre puis ils ont perdu leur licence. Mais je me dis, est-ce que c'est juste le bout de l'iceberg qu'on voit, puis en dessous de ça, le lobby est encore plus gros, plus puissant?
Écoute, il y a une femme que j'admire beaucoup et que je cite un petit peu dans mon livre, mais peut-être que j'aurais dû la citer encore plus, c'est Jemila Benhabib. Jemila Benhabib, qui a été d'ailleurs candidate du Parti québécois dans Trois-Rivières. Jemila Benhabib, qui a écrit des livres, écoute, qui était vraiment précurseur, qui prévoyait tout ça. Écoute, quand tu écris un livre qui s'intitule « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident », donc, elle vient d'Algérie. Sa famille a quitté l'Algérie parce qu'ils étaient menacés là-bas. Elle est venue s'installer au Québec. Et moi, c'était une amie à moi. Je la vois d'ailleurs quand je vais en Europe, je vais toujours voir Jemila. Elle habite en Belgique maintenant. Et Jemila, elle disait, voyons, on a quitté l'Algérie parce qu'il y avait des intégristes là-bas qui menaçaient les droits des femmes. On arrive au Québec, on pensait qu'au Québec, on allait pouvoir, en vous disant ce qu'on a vécu en Algérie, vous mettre en garde. Ben non, on est trop gentil, puis là on laisse faire, puis là on dit rien, puis on met des femmes voilées dans nos publicités, puis là on envoie le message que le voile c'est bien correct, puis que l'intégrisme, il n'y a pas de problème avec ça. Ben, ces gens-là, Jemila Benhabib, nous avaient prévenus. Et en ce moment, il y a plein de femmes de culture arabo-musulmane. Si moi, par exemple, comme femme blanche, j'ai pas le droit au chapitre parce que c'est pas ma culture, écoutons au moins les femmes qui sont de culture arabo-musulmane et qui elles-mêmes disent qu'il y a un danger. Et c'est pas islamophobe de leur part de le dire. Elles sont issues de cette culture-là et elles-mêmes disent, ne reproduisons pas ici au Québec, ce qui s'est passé en Algérie, il faut vraiment faire attention.
Dans ton livre, Sophie Durocher, qui s'intitule « Où sont les femmes? », il y a un chapitre où on parle d'avortement sélectif. Je savais que ça se faisait en Asie là, pendant quelques années. On avait tellement de filles, puis en même temps, on nous disait ben, « Vous autres, vous avez le droit d'avoir juste un enfant par famille. » C'était-tu au Japon que ça se faisait?
En Chine.
C'était en Chine, on identifiait le fœtus, puis si jamais c'était un gars, c'était correct. Puis si c'était une fille, on la
On s'en
renvoyait.
débarrassait.
Est-ce que ça se fait plus qu'on pense?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement difficile à quantifier parce que, évidemment, il n'y a personne au Canada en ce moment qui a envie de se mettre à faire des études là-dessus parce qu'on serait peut-être surpris du résultat. Ce que je sais, par contre, et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a des études qui sont faites sur la diaspora indienne. Donc, des gens qui ont quitté l'Inde et qui sont allés s'établir, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre. Et il y a des chercheurs très sérieux qui ont, en fouillant dans les chiffres, se sont rendus compte que c'est au sein de la diaspora qu'il y a plus d'avortements sélectifs, même qu'en Inde. Et que parmi tous ces pays-là, c'est au Canada qu'il y en a le plus. Après, il faudrait d'autres études pour pouvoir vraiment quantifier ça. Mais ce dont je parle aussi dans mon livre, c'est du fait que, par exemple, la CBC à Toronto a fait des reportages pour montrer que dans certaines communautés asiatiques, des femmes se font menacer de se faire battre si leur prochain enfant est une fille. Donc, on leur met de la pression pour aller se faire avorter dès qu'elles ont passé le test de grossesse et qu'on sait le sexe, pas le test de grossesse, mais dès qu'elles ont passé l'échographie et qu'elles savent le sexe de l'enfant. Si c'est une fille, elles ont la pression de leur famille et de leur belle-famille de se faire avorter parce qu'on ne veut pas qu'elles aient des filles. Parce que quand tu as une fille, ben là, ta fille, elle va aller vivre avec la famille de son mari quand elle va se marier. Donc, elle va moins bien prendre soin de ses parents vieillissants. Dans certaines cultures aussi, les parents doivent payer une dot, doivent donner un gros montant d'argent lors du mariage de leur fille. Alors que quand le gars se marie, ben, ils reçoivent de l'argent. Donc, ils préfèrent avoir des gars que des filles. Mais tu peux pas rêver de quelque chose de plus sexiste que ça. Il y a des cultures où on dit le gars est ici, puis la fille est loin, loin, loin en dessous. Puis on considère que la fille est tellement loin en dessous qu'on est prêt à s'en débarrasser quand elle est dans le ventre de la mère. C'est quand même assez particulier. Et les féministes, elles veulent jamais qu'on parle de ça.
Non. Est-ce que tu as hésité avant d'écrire ce chapitre-là? Parce que je trouvais ça courageux de ta part. Je me suis dit, c'est clair et net qu'il y en a qui vont revirer leur chemise quand ils vont voir que Sophie Durocher a fait un chapitre là-dessus. Mais tu le dis clairement que tu n'es pas contre l'avortement.
C'est ça, je commence le chapitre en disant, je ne sais pas si je me souviens plus si c'est exactement au début, mais peu importe, en disant que je suis pour l'avortement libre et gratuit. Selon moi, le gros problème en ce moment avec l'avortement au Québec, c'est une question d'accès. Il y a trop de régions au Québec et dans le reste du Canada où les femmes n'ont pas accès à l'avortement. Toutes les provinces maritimes, c'est extrêmement difficile d'obtenir un avortement. Même la pilule abortive, c'est très difficile. Donc, soit l'avortement chirurgical, soit la pilule abortive. Mais donc, ça a été le chapitre le plus difficile à écrire parce que c'est celui qui était le plus délicat. C'est celui où il fallait que je... Tu sais, dans les autres chapitres, je pose des questions et j'apporte une réponse. Ce chapitre-là, je pose beaucoup de questions et j'ai préféré ne pas répondre parce que je pense que ça appartient au lecteur. De se faire sa propre tête. Moi, je lui présente les éléments en disant, écoute, il y a ça, il y a tel argument. Si on stigmatise telle population en faisant des campagnes, par exemple, de sensibilisation, ben, c'est sûr qu'on va faire une campagne de sensibilisation juste auprès des communautés ethniques où on fait des avortements sélectifs. Donc, est-ce qu'on est en train de stigmatiser ces gens-là? Donc, je pose plein, 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 plein de questions. Mais je ne réponds pas à beaucoup de questions parce que je préfère laisser le lecteur. Je considère que mon lecteur est assez intelligent pour se faire une tête. Et tu remarqueras que je ne dis pas les lecteurs et les lectrices parce que je considère que dans ce cas-là, les gens sont assez intelligents pour comprendre que mon lecteur peut aussi être une lectrice puis que je n'ai pas besoin d'utiliser le français inclusif.
Quand on est revenu avec le fameux, avec l'arrêt Roe versus Wade, ça a fait énormément jaser aux États-Unis, mais beaucoup au Canada. Puis là, avec la venue d'un nouveau président élu, Donald Trump, je parlais avec mes collègues de travail. Puis Sophie, j'avais jamais évalué à quel point ça pouvait vous traîner dans la tête, ça, ces histoires de revenir en arrière, de revenir à l'âge de pierre où on interdisait aux femmes, même en cas de viol,
Les
d'avorter l'enfant. Puis je le sentais chez mes collègues, là. C'était une peur qui était là, qui était présente. Puis je leur disais, mais non, on ne reviendra pas en arrière. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement redonné le droit aux différents États de
C'est ça.
décider eux-mêmes s'ils sont pro-avortement ou pas. Puis d'ailleurs, il y a des États qui ont voté Trump. Puis ils ont voté justement pour le droit à l'avortement des femmes. Mais c'est la peur qui était en eux que j'avais mal évaluée, Sophie. Je pensais pas que c'était si fort en eux.
Mais c'est-à-dire que quand tu es une femme, tu vis toute ta... Dès que tu commences à être active sexuellement, tu vis avec cette peur-là ou cette crainte-là ou avec cette réalité-là que chaque relation sexuelle que tu as, tu peux potentiellement tomber enceinte. Alors, c'est sûr qu'une grossesse désirée, il n'y a rien de plus merveilleux. Moi, je trouve que c'est une des choses absolument magnifiques qui peut arriver dans la vie d'une femme de tomber enceinte. Pas avoir d'enfant, c'est aussi une option tout à fait formidable. Mais c'est sûr que de vivre dans un monde où si tu tombes enceinte au mauvais moment ou enceinte de la mauvaise personne ou que c'est le résultat d'un viol ou d'un cas d'inceste ou que peu importe, ne pas avoir cette option-là de prendre la pilule abortive ou d'avoir une opération chirurgicale ou même l'option de ne pas avoir accès à une contraception adéquate, ça, c'est une angoisse que vivent les femmes, c'est sûr, là. C'est sûr et certain que c'est angoissant, mais le fait qu'on soit craintif par rapport à une législation de l'avortement ne signifie pas qu'on ne doit pas avoir un débat quand même, réfléchir à la question de l'avortement sélectif, même s'il y a juste une fille par année, même s'il y en avait juste une par année, une petite fille dans le ventre de sa mère qui est avortée parce que c'est une fille, on devrait s'inquiéter de ça aussi.
Oui, mais c'est ça. C'est profond. Puis en même temps, tu sais, je parlais, moi j'aime bien ça, embêter mes collègues de travail, là, ça, quand ils ont des idées bien claires sur quelque chose, ils ont une opinion. Puis je disais, ouais, mais pour l'avortement, t'es-tu pro-avortement à 100%? Elle dit, oui, je suis pro-avortement à 100%. Je dis, parfait. C'est quoi les règles? Puis là, je veux pas la nommer, là, mais j'ai dit, c'est quoi les règles au Canada pour ce qui est de l'avortement? Ben, elle dit, tu peux te faire avorter. Je dis, oui, OK, mais jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand c'est légal? Ben, elle dit, tout le temps. OK, mais ça veut dire que toi, si une amie te dit, ben mon enfant il va naître demain, mais je veux me faire avorter aujourd'hui, tu es à l'aise. Oh non, là, elle l'était plus. Là, elle l'était plus à l'aise. Alors que c'est la loi au Canada. Tu peux te faire avorter jusqu'au dernier jour avant la naissance de cet enfant-là.
Théoriquement,
oui. Effectivement. Il n'y a pas de médecin qui pratique ça au Québec. Par contre, si jamais la dame est vraiment déterminée, peut aller dans une clinique aux États-Unis et ça va être remboursé par la RAMQ. Et là, quand j'ai dit ça à ma collègue qui avait une opinion, tu sais, très fermée, là, oui, bien là, elle dit, ah ouais, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, oui, il faut en débattre, puis oui, il faut en jaser, mais il ne faut surtout pas être fermé. Quand on parle
d'accord,
de ces sujets-là.
Et je suis entièrement d'accord avec l'idée que c'est très amusant depuis justement le renversement de Roe contre Wade, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Puis là, il y a le documentaire de Léa Clermont-Dillon donc, sur l'avortement et les craintes que ça suscite ici au Canada. Il y a beaucoup de discussions sur l'avortement. Et on dit tout le temps, ben, la question est réglée. Au Canada, la question est réglée. Il y a un consensus social, mais c'est un consensus social. Premièrement, moi, je ne le vois pas, le consensus social, parce qu'en effet, il y a plein de gens qui ont des réticences face à l'avortement. Donc, s'il y avait un consensus social, il n'y aurait pas des politiciens conservateurs qui sont contre l'avortement. Hein? Bon. Alors, donc, ce n'est pas 100% des gens qui sont pour, et je respecte les gens qui sont pas d'accord. Donc, non seulement il n'y a pas de consensus social, mais beaucoup des discussions sur l'avortement sont basées sur une méconnaissance de la loi, parce qu'il n'y en a pas de loi. Et c'est pour ça qu'il y a au Canada un organisme qui s'intitule « We need a law », parce qu'en fait, en ce moment, on a décriminalisé l'avortement, mais on n'a pas de loi en tant que telle sur l'avortement depuis 1988, depuis l'arrêt de la Cour suprême. Donc, on est dans une espèce de vide juridique et la plupart des gens à qui tu parles, justement, d'avortement, ben, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Fait que c'est un peu gossant d'avoir une opinion sur un sujet quand les gens ne savent pas trop de quoi ils parlent.
Exact, exact. On jase ce soir avec Sophie Durocher qui vient nous présenter son livre « Où sont les femmes? » Préface de Mathieu Bock-Côté qui semble beaucoup t'apprécier, Sophie. En passant, j'imagine que tu t'en es rendu compte dans la préface.
On soupait ensemble hier soir.
Ah ouais, bon, ben j'imagine qu'il te l'a répété. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneras qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 101.
Grâce à Boulevard, maîtrisez l'art de la cuisine avec Doyon Després et les couteaux Azaki. Imaginez, préparez vos plats avec des couteaux d'une précision exceptionnelle, forgés au Japon et dotés d'un design unique. Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 et inscrivez l'indice du jour de Rage Against le matin et Gravel dans le retour au blvd.fm pour courir la chance de remporter un ensemble Azaki d'une valeur de 695$ comprenant 4 couteaux haut de gamme et un bloc magnétique en chaîne. Boulevard 102.1 et Doyon Després, fier partenaire de vos recettes parfaites.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
L'élégance de bien recevoir avec la collection fine du bal de distillerie. Des spiritueux imaginés à partir d'ingrédients bien de chez nous, conçus pour plaire à tous les palais. Le cadeau parfait pour célébrer le savoir-faire d'ici. La collection fine du bal de distillerie, disponible en SAQ.
Pour tous vos travaux sur votre terrain, ça vous prend un tracteur Massey Ferguson, de chez SA Service Agricole. Déneiger, creuser, charger et tirer. Garantie 10 ans à partir de $59 par semaine à l'achat. Disponible maintenant. Pour les meilleurs tracteurs, saserviceagricole.ca.
Chez Sport Expert et Atmosphère, les soldes du Vendredi fou sont commencés. Profitez dès maintenant de 25% de rabais sur les nouvelles collections des grandes marques. The North Face, Eliensen, Columbia et Merrell. Détails en magasin, Sport Expert d'ici.
Pendant la fin de semaine du Vendredi fou seulement, achetez 2 participations d'Automax ou plus sur le même billet et obtenez l'extra gratuitement.
Mais si l'extra est gratuit avec 2 participations d'Automax, ça veut dire que l'extra est pas en extra avec 2 participations d'Automax. Ça veut dire que l'extra est inclus avec 2 participations d'Automax. Ça veut dire que ça devrait pas s'appeler l'extra, ça devrait s'appeler l'inclus. Non, peut-être pas.
Du 29 novembre au 1er décembre seulement, achetez deux participations Lotomax ou plus sur le même billet et obtenez l'extra gratuitement. En magasin seulement, détails complets sur lotoquebec.com. 18 ans ou plus.
Vendredi fou au Spa Infinima. Jusqu'au 30 novembre, offrez le forfait Infinima visage ou massage à 99 $ à l'achat d'une carte cadeau. Détails en ligne ou en succursale. Spa Infinima, rendre le bien-être et la détente accessibles.
Dans la vie, il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui font leur chance. Alors voici une chance en or de passer à l'électrique à la vitesse Mach-E. En ce moment, obtenez jusqu'à 17 000 $ de rabais sur les modèles de Mustang Mach-E 2024 sélectionnés, incluant les incitatifs gouvernementaux. Voici votre chance d'obtenir le plein rabais du gouvernement provincial pour passer au volant d'une légende. À vous de la saisir avant qu'il soit trop tard. Rendez-vous chez votre détaillant Ford ou visitez ford.ca pour les détails.
Toncel.ca a plein d'offres alléchantes pour toi. Ils sont tellement excités de leur prix que le vendredi fou est arrivé plus tôt. Économisez gros sur le Samsung S24 et le Samsung S24 SE avec Horizon Mobile détaillant TELUS. Besoin d'un sel? Toncel.ca.
Visitez le plus grand centre de décoration de Noël au Canada et offrez-vous un temps des fêtes unique. Noël à Mel, vous serez emballé. Maintenant ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21 h.
Les escomptes Lecomte fêtent leurs 40 ans cette année. Pour l'occasion, découvrez leur magasin de Noël, Lecomte de Noël. Sensationnel et féerique, il est le plus grand magasin de Noël à Québec. Pour emballer, illuminer, cuisiner et embellir votre maison pour les fêtes. Situé dans l'ancien local de La Liberté. Un autre incontournable, la boutique Brico Déco. Elle vous charmera par son originalité, sa sélection designer et son ambiance cocooning. Parfait pour vos cadeaux de Noël. Leur équipe sera là pour vous servir et vous conseiller. Stationnement facile d'accès, Brico Déco et Lecomte de Noël, rue Saint-Joseph.
Vendredi et samedi, ça va être fou chez Passe-temps 3000. Des rabais fous partout en magasin. Jeux pour toute la famille, casse-tête, téléguidé, c'est le meilleur temps pour acheter vos cadeaux. Profitez des rabais foufou vendredi et samedi. Chez Passe-temps 3000, 445 rue Soumande, c'est ça, Passe-temps 3000.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien... Vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Sophie Durocher est avec nous ce soir, notre collègue du 99.5 Montréal, qui est maintenant rendue une animatrice hertienne. Quoi que tu l'as déjà fait par le passé, là, oui. La radio hertienne, ça a-tu été partir de Cube Internet versus Cube sur les ondes, ça a-tu été compliqué pour toi? Tu as quand même une émission là, qui dure un quoi, un bon 60 minutes?
Oui, c'est ça. J'ai une émission d'une heure entre 14 et 15 heures. Écoute, j'en avais déjà fait, évidemment, de la radio. J'avais fait de la radio à Québec, j'avais fait de la radio à Montréal, à Radio-Canada, pour ne pas les nommer. C'est très chouette. Passer sur les ondes hertziennes, ça fait toute une différence. Juste un détail qui n'est pas un détail, mais juste le fait que les gens rentrent dans leur auto, allument la radio et qu'ils n'ont pas à prendre leur cellulaire. Brancher leur cellulaire, trouver l'application. Juste le fait que ce soit simple et que ce soit rapide, ça fait toute la différence. Et écoute, ça veut dire qu'aussi, quand on parle aux gens, dans toute leur, sphère de vie. Tu comprends? C'est vraiment les gens, ils ont, mettons, un poste de radio dans la cuisine. Bien là, on a beaucoup plus le sentiment d'être dans le quotidien des gens versus avant. Où on était, on était sur le web, donc les gens nous écoutaient en format balado, donc c'était plus des petits segments, toute l'émission était un petit peu charcutée, donc on est hyper contents.
Ouais, puis quand il arrive des sujets de dernière minute, là, grosse nouvelle, on doit tomber dessus, puis parfois même on doit donner notre opinion alors qu'on n'a pas toute l'information nécessaire. Fait que c'est du sport, effectivement. Moi, j'ai la chance de faire les deux. J'ai la chance de faire du podcast. J'ai la chance de faire de la radio hertzienne. Dans le podcast, on est gâté par le temps parce qu'on peut prendre du temps avec nos invités. Mais c'est vrai que des fois, exemple, on parle d'un sujet qui vient d'arriver. Là, je sais pas, François Legault a dit une patente concernant quelque chose. On est tout très au départ. Puis là, ben, les auditeurs, eux autres, sont à l'affût. Puis si on fait une erreur, Sophie, ils connaissent le numéro pour nous rejoindre. Fait qu'on l'a directement dedans, contrairement à quand on fait du podcast où là, on peut être un peu plus laid back là, dans nos affaires.
Oui, mais moi, le fait de pouvoir interagir en direct avec les gens, ça, c'est absolument génial. Écoute, je vous raconte une anecdote. À un moment donné, je fais ma propre émission, puis de temps en temps, je remplace ma collègue Isabelle Maréchal le matin. Elle, son émission est de 9 à 11, et elle, à son émission, c'est beaucoup des lignes ouvertes. Tu sais, les gens arrivent avec des témoignages, et à un moment donné, on fait un sujet où on parlait, je pense, de violence conjugale, je ne me souviens plus. Et là, il y a quelqu'un qui nous appelle en disant « Ah oui, je posais la question, est-ce que quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle quand il était jeune, est-ce que ces gens-là vont avoir tendance à répéter ça et à devenir eux-mêmes à leur tour des agresseurs? » Et là, il y a quelqu'un qui appelle et qui dit « Ben moi, j'ai été agressée quand j'étais jeune et je suis allée en prison, j'ai passé, je pense, 5 ans en prison. » Parce que je suis devenue moi-même un agresseur sexuel. Écoute, c'était un moment de radio tellement étrange, parce qu'en même temps, ce monsieur-là, il acceptait de se confier à nous. En même temps, moi, j'étais hyper gênée de parler à quelqu'un qui a commis ces gestes-là. Puis il nous a parlé de tout le processus à travers lequel il est passé, toutes les thérapies qu'il a faites, mais le direct, le gars, il nous entend parler de ça, il nous appelle, puis il commence à nous parler de sa vie en prison. Écoute, tu vis des moments de radio incroyables.
Oui, ben, je suis content que vous soyez là à Montréal, parce que vous êtes nos collègues, en fait, là, par la gang de Leclerc Communication. Fait que, puis ça donne lieu au fait qu'on puisse échanger avec votre gang aussi. Je sais que Richard l'a fait avec Denis Gravel il y a de ça quelques semaines. Il parlait justement de son opération. Il nous a bien fait rire, là, d'ailleurs, avec son opération.
Je sais pas comment il fait pour rire de ça, mais je pense que c'est la bonne attitude qu'il a. De dédramatiser tout ça, de prendre ça avec humour. Et en même temps, moi, j'aime ça parce que les gens vont découvrir le fait que Richard est peut-être la personne la plus drôle que j'ai rencontrée de toute ma vie.
Ah, il est très drôle. Moi, j'ai pas eu l'occasion de travailler souvent avec. J'ai remplacé quelques fois. J'ai été à des parties d'employés avec où là, je me suis rendu compte que marcher avec Richard Martineau sur la rue, c'est vraiment pas une bonne idée parce que pour une marche de 5 minutes, ça se transforme en marche de 45 minutes parce que tout le monde veut y parler, tout le monde veut prendre des photos avec. Mais ouais. Oui, c'est un gars extrêmement sympathique. Hey, il me reste deux choses à jaser avec toi avant la fin du podcast de ce soir. Gabrielle Bouchard est arrivée à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Gabrielle, elle est Bouchard. Elle est née de sexe masculin. Elle a eu une transformation, donc est devenue une femme plus tard. Puis par la suite, on l'a mis à la Fédération des femmes du Québec. Est-ce qu'une femme trans est capable dignement de représenter des femmes biologiques?
Bien, je ne remets pas du tout en question la dignité de Gabrielle Bouchard. Ce que je remets en question, c'est son expérience et son vécu. Je te donne juste un exemple. Toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont plus de, je sais pas, 12, 13, 14 ans, qui se sont déjà promenées le soir en ayant la peur au ventre de se faire pogner dans un coin. Toutes les femmes qui, au travail, à un moment donné, sont convoquées dans le bureau d'un collègue ou d'un patron, puis qui se disent « Coudon, est-ce qu'il veut me parler ou est-ce qu'il veut me pogner les fesses? » Toutes ces femmes-là savent très bien que si tu as passé 30 ans de ta vie dans un corps d'homme, tu ne sais pas c'est quoi ça.
Exact.
C'est pas parce que tu portes des boucles d'oreilles puis que tu t'es fait construire de façon chirurgicale, que tu t'es fait construire un vagin. Ça ne changera rien au fait que si tu te promènes à 2 heures du matin dans la rue, tu n'auras pas peur. Ou tu n'auras pas la même peur, ou tu n'auras pas peur des mêmes choses qu'une femme placée dans la même situation. Moi, j'ai le plus grand respect pour les personnes transgenres, j'ai le plus grand respect pour les hommes transidentifiés, les femmes transidentifiées, mais je veux qu'on reconnaisse que c'est une lubie de dire « une femme trans est une femme ». Je le dis avec énormément de respect, Je le dis de façon très calme et très posée. Je le dis sans haine. Une femme transgenre n'est pas une femme et on ne mettrait pas à la Fédération des personnes handicapées quelqu'un qui a ses deux jambes pour marcher et qui n'a aucun handicap. Les personnes handicapées seraient insultées. Et qu'est-ce qu'elles diraient, les personnes handicapées? Elles diraient « Tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas c'est quoi ma réalité. » Quand bien même la personne prend un bat de baseball et commence à se casser les jambes, ça ne changera rien. Ce n'est pas quelqu'un qui est handicapé. Mon exemple est peut-être un peu extrême.
Non, mais au même titre qu'on peut mettre un blanc représentant de la Ligue des Noirs à Montréal, ce serait une catastrophe.
Ça ne marcherait pas. Et non. Les personnes noires diraient « Tu ne sais pas. » Quand bien même tu te mets du cirage dans le visage puis tu t'en vas te promener sur la rue Sainte-Catherine pour essayer de ressentir à quoi peut ressembler la discrimination que vit quelqu'un qui est noir, ça n'est pas la même chose. Et je le dis en tout respect, ça n'est pas la même chose. C'est pour ça que je consacre tout un chapitre à Gabrielle Bouchard. Ce n'est rien de personnel contre Mme Bouchard, mais je considère que c'est quand même une forme d'invisibilisation et d'effacement des femmes que de lui avoir accordé ça. Parce que, tu sais, les féministes, elles parlent beaucoup d'un phénomène qui s'appelle le « male gaze », le regard masculin. Elles dénoncent beaucoup le fait que, par exemple, dans des films, quand c'est un homme qui est réalisateur, la façon dont on filme le regard, le corps de la femme, on objectifie le corps de la femme, on sexualise le corps de la femme. Parce que l'homme, quand il regarde la femme, c'est comme ça qu'il la regarde. Bien, Gabrielle Bouchard, y a-t-il un male gaze quand il regarde une femme? Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas dans sa peau, hein, Gabrielle. Mais c'est un corps d'homme.
Ouais.
Je dirais que si on dénonce le male gaze, bien, si vous dénoncez le regard masculin, ben, quelqu'un, tout d'un coup, par un coup de baguette magique, va perdre toutes ces caractéristiques masculines, juste parce qu'on l'appelle Gabrielle 2LE au lieu de Gabrielle EL, j'ai un peu de difficulté avec ça.
Est-ce qu'on est en train d'éradiquer les femmes biologiques au Québec?
Je n'irai peut-être pas jusque-là. Je pense qu'on est en train de glisser sur une pente dangereuse. Je pense que les féministes québécoises devraient porter très attention à ça. Je pense que quand, par exemple, on va sur le site du gouvernement du Québec, qu'on est enceinte et qu'on veut savoir comment s'alimenter comme femme enceinte, et que sur le site du gouvernement québécois, dans certaines sections, on ne parle pas de femme enceinte, mais on parle de personne enceinte, ça veut dire que le gouvernement nous dit « ben, il n'y a pas juste les femmes qui sont enceintes, il peut y avoir aussi des hommes qui sont enceintes ». Je pense qu'on devrait frapper à la porte de notre gouvernement puis dire « Youhou! Retour sur la réalité, retour sur Terre, s'il vous plaît. Retour dans les facultés de médecine pour revenir à la biologie et à l'anatomie. » Je pense qu'il faut être très vigilant et faire attention parce qu'il y a un glissement qui est en train de se faire en ce moment. Et mon livre est vraiment... une façon de tirer la sonnette d'alarme.
Oui, je me rallie à Mathieu Bock-Côté qui signe la préface, qui dit « C'est une lecture dont vous ne sortirez pas indemne. » Moi aussi, il me reste... il me reste deux chapitres. Là. Il me reste le grand remplacement de la fin qui est comme une page et demie à peu près. Puis il me reste l'autre chapitre juste avant. Mais j'ai adoré ton livre, Sophie Durocher. Puis les gens peuvent se le procurer. C'est aux éditions du journal, donc dans toutes les bonnes librairies, en fait. Là.
Oui, les bonnes librairies. Parce que peux-tu croire, il y a des librairies qui ont refusé de tenir mon livre. Ils ont le droit, hein, parce que c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a des lecteurs, des gens qui m'ont écrit sur Facebook, qui m'ont écrit au Journal de Montréal, pour me dire, ben, je suis rentrée dans une librairie, j'ai dit, ben là, je cherche le livre de Sophie Durocher. Ah, on ne tient pas ça, ce livre-là. Tu sais, avec genre une grimace, quasiment en train de vomir dans leur bouche.
Ouais. Mais ils ont des livres, par exemple, sur l'astrologie, ils ont des livres sur la magie noire, mais la sorcière Sophie Durocher, on ne veut pas l'accepter, cite.
Exactement, t'as tout compris.
Ça a été un plaisir de discuter avec toi ce soir, puis au plaisir de te reparler dans les prochains mois, Sophie.
Absolument. Merci beaucoup. Puis salutations à tous les auditeurs de Boulevard.
Merci beaucoup. On était avec Sophie Durocher ce soir qui nous présente son livre « Où sont les femmes? L'effacement du féminin dans l'espace public ». Je souhaite de passer une belle soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et on se reparle demain 10h. Salut tout le monde. Ciao.
Marceau, le soir.
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. Bellemareavocat.ca.
Bonjour, je suis Patrick Lemazurier, propriétaire de chez Pat Boucherie au Grand Marché de Québec. Je vous promets une qualité supérieure de viande, boudin, épices et charcuterie. Venez en tout temps à notre bar à tartare. Je fais partie des marchands fiers d'être au Grand Marché de Québec.
À tous les voyageurs qui affirment que l'aéroport de Québec est trop petit, nous voulons vous dire...
Vous avez totalement raison. Il est trop petit. Trop petit pour s'y perdre, trop petit pour des files d'attente à n'en plus finir, trop petit pour courir vers son vol, avec un grand stationnement au prix trop petit pour s'en passer. Mais ça ne lui empêche pas d'offrir une multitude de vols directs et tous les avantages d'un grand aéroport international. Donc, demandez à votre conseiller en voyage de décoller de l'aéroport de Québec ou visitez décollerdequebec.ca. YQB, le plus petit des grands aéroports.
Soyez branchés. Passez à l'électrique au volant d'une IONIQ 5 2024. Les Sarondé a présentement plusieurs véhicules électriques IONIQ 5 2024 disponibles. Choisissez le vôtre maintenant et profitez de rabais gouvernementaux jusqu'à 12 000 $ pendant l'événement Hyundai C'est OK chez Les Sarondé.
Chez Sport Expert et Atmosphère, les soldes du Vendredi fou sont commencés.